France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'Ukraine, 4 ans après l'invasion russe, tente de contre-attaquer. Elle aurait repris quelques centaines de kilomètres carrés dans le sud du pays. À Moscou, le Kremlin refuse toujours de parler de guerre et la population reste majoritairement derrière Vladimir Poutine. Page spéciale dans ce journal avec Claude Guibal en Ukraine et Sylvain Tronchet en Russie. Donald Trump va-t-il frapper l'Iran? Le président américain en serait dissuadé par son chef d'état-major. Selon la presse américaine. Information démentie par la Maison-Blanche. Nous ferons le point avec Franck Madvoin à Washington. En France, le gouvernement redoute une reconstitution de la Jeune Garde, le mouvement mis en cause dans la mort de Quentin Derenque. La France insoumise, de son côté, demande la dissolution du collectif identitaire Némésis. Sébastien Lecornu hausse le ton sur la Nouvelle-Calédonie. Le statu quo n'est pas viable, affirme le Premier ministre. Alors que le Sénat examine le projet de loi constitutionnel sur la création d'un État calédonien au sein de la République française. Volodymyr Zelensky l'affirmait vendredi dernier à l'AFP, l'Ukraine ne perd pas la guerre 4 ans après le début de l'invasion russe. Au contraire, martèle le président ukrainien, ses troupes ont repris ces derniers jours 300 km carrés dans le sud du pays et la contre-offensive ukrainienne est toujours en cours. Plus au nord, dans le Donbass, l'armée de Kiev est sur la défensive face aux assauts des soldats du Kremlin. Moscou qui exige le retrait des Ukrainiens de tout le Donbass avant d'envisager un quelconque cessez-le-feu. Et la population civile continue à fuir, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Claude Guibal, Marc Garvenès et Yachar Fazilov.
Dans le toit de la gare de Lozova, un grand trou, c'était il y a 2 jours, un drone et la gare, dernier arrêt avant le front du Donbass et principal point d'évacuation de la région, n'est plus un sanctuaire. Svitlana se presse, un wagon pour Kiev est réservé pour les évacués. Elle arrive de Konstantinivka.
On est parti hier soir. La situation, elle est critique. Ça explose tout le temps. La journée, la nuit, le matin, il y a les drones Shahed, les missiles Calibre. Il reste encore du monde là-bas.
Et puis il y a Serhi. Lui aussi est arrivé hier. Il s'excuse, il entend mal. Un bombardement l'a laissé à moitié sourd avec des acouphènes et un bras blessé.
C'est difficile, ça bombarde chaque jour, matin, soir, journée, constamment. Ça tire de partout, ça gronde, tout l'appartement tremble, il n'y a plus de chauffage.
Selry est parti de chez lui sur son vélo avec quasiment rien. Il nous fixe de son regard sidéré.
Les Ukrainiens ne céderont pas le Donbass. Quant aux négociations de paix, elles ne mènent à rien. Bien sûr qu'il faut récupérer ce qui est à nous. Il faut toujours combattre pour nos territoires.
Svetlana, elle, se résigne déjà.
On a déjà perdu notre maison. On n'a nulle part où revenir. Oh, bien sûr qu'on voudrait rentrer. Mais ils vont tout raser. Avant même que la paix arrive, il ne restera plus rien.
Presque 4 millions d'Ukrainiens sont aujourd'hui des déplacés.
Claude Guibal, envoyé spécial en Ukraine. À Moscou, le discours officiel sur la guerre en Ukraine n'a pas changé depuis le 24 février 2022. La Russie ne fait pas la guerre. Elle mène une opération militaire spéciale contre le régime de Kiev qualifié de nazi. Et ce discours n'est pas contesté au sein de la société russe, d'abord parce que la répression empêche l'expression publique de toute voix discordante, ensuite parce que l'adhésion à Vladimir Poutine semble rester majoritaire en Russie. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Mesurer l'opinion en Russie est un exercice périlleux vu le climat de peur, de délation qui règne. Mais c'est la tâche que poursuit le dernier institut indépendant du pays. Le centre Levada est classé agent de l'étranger, pas soupçonnable donc de complaisance vis-à-vis du Kremlin. Et pourtant, il affirme que les 3/4 des Russes soutiennent la guerre et un peu plus même se disent satisfaits de Vladimir Poutine. Un soutien qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début de la guerre. Bien sûr, une majorité de Russes interrogés souhaitent voir la fin du conflit, mais pas à n'importe quel prix, explique Alexei Levinson de l'Institut Levada.
Quand nous posons la question « Soutiendriez-vous le président Poutine s'il annonçait qu'il mettait fin aux opérations militaires cette semaine ?» 60 à 70% répondent « Oui ». Mais si nous demandons ensuite « Soutiendriez-vous le président s'il annonçait qu'il mettait fin aux opérations militaires cette semaine et rendait à l'Ukraine les territoires annexés ?» Dans ce cas, le nombre de personnes répondant « Oui » diminue de plus de la moitié.
En cela, les Russes sont réceptifs et calés sur la ligne du Kremlin qui répète depuis maintenant 4 ans que les territoires de l'Est de l'Ukraine sont partie intégrante de la Russie au point de les avoir inscrits dans la Constitution. Un point de blocage majeur pour les négociations en cours. D'ailleurs, une majorité de Russes pense que la guerre va durer encore au moins un an.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie. Une trentaine de dirigeants de pays alliés de l'Ukraine appellent ce soir la Russie à accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Selon un communiqué diffusé à l'occasion du 4e anniversaire de l'invasion russe, les dirigeants de la coalition des volontaires ont aussi pointé, je cite, le lourd tribut que la Russie a payé pour des gains minimes sur le champ de bataille, avec près d'un demi-million de victimes rien que l'année dernière. Fin de citation. Un événement très attendu ce soir aux États-Unis, le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, une longue allocution devant les deux chambres du Congrès. Le président américain y défendra son bilan sur l'économie ou l'immigration, mais aussi sur la politique étrangère, alors qu'il s'apprête à prendre la décision peut-être la plus significative de son mandat, frapper ou non l'Iran. Les États-Unis ont déployé ces dernières semaines une armada sans précédent depuis plus de 20 ans au Moyen-Orient, mais tous les membres de l'administration américaine ne sont pas convaincus de la pertinence d'une attaque. Le chef d'état-major en personne aurait fait part de ses doutes à Donald Trump. On fait le point avec Franck Madvon à Washington.
Dans un gouvernement qui verrouille l'information, les propos rapportés ont du sens. Or, des membres de l'administration ont fait fuiter les préoccupations du chef d'état-major Dan Kane. Ce général, respecté par Trump, se montre bien plus prudent qu'avant l'opération au Venezuela. Il met en avant plusieurs risques en Iran, des victimes américaines, un conflit long dont il serait difficile de sortir. D'après les médias qui relatent les coulisses des discussions au plus haut niveau, le général Kane ne milite pas donc pour une attaque, mais se dit prêt à la soutenir, à exécuter les ordres. Pas de scepticisme selon les sources, juste du réalisme. Donald Trump a tenu à commenter les comptes rendus dans la presse. Dans un message, il précise que Kane, comme nous tous, préférerait ne pas voir la guerre, mais estime qu'un conflit serait facilement gagné s'il était déclenché. Le président américain souligne que la décision lui appartient. Un accord qui puisse lui convenir et ne pas trahir ses promesses de fermeté semble improbable, et jamais les États-Unis n'ont déployé un tel arsenal pour ne rien faire.
Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. En Iran, après la sanglante répression de janvier, le régime des mollahs a lancé aujourd'hui un avertissement aux étudiants qui ont recommencé à protester. Ils ont naturellement le droit de manifester, a déclaré la porte-parole du gouvernement iranien, Fatmeh Moajerani. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir, même au plus fort de la colère, a-t-elle ajouté, citant les lieux sacrés comme les mosquées et le drapeau de la République islamique. Depuis la reprise des cours samedi en Iran, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des étudiants dans des universités de Téhéran brûler ce drapeau, adopté après la révolution de 1979 qui avait renversé la monarchie iranienne. Le torchon brûle un peu moins ce soir entre la France et les États-Unis. Charles Kushner, l'ambassadeur américain à Paris, a appelé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et selon le Quai d'Orsay, il s'est montré disposé à ne pas interférer dans le débat public français. Charles Kushner, qui n'avait pas répondu hier à la convocation de Jean-Noël Barrot, qui lui reprochait ses commentaires sur la mort du militant identitaire Quentin Derenc. Il n'y a pas que la France qui a des relations houleuses avec un ambassadeur américain. Chez nos voisins belges aussi, le ton monte entre le gouvernement fédéral et Bill White, l'ambassadeur choisi l'an dernier par Donald Trump pour représenter les États-Unis auprès du Royaume de Belgique. En cause, des réactions jugées inappropriées dans plusieurs affaires intérieures. On retrouve Fabien Cazot à Bruxelles.
En à peine plus de 100 jours, Bill White a déjà multiplié les incidents diplomatiques avec le gouvernement belge qui ne cache plus son exaspération. Le Premier ministre Bart De Wever a même été jusqu'à déclarer hier que ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de semer le désordre dans la politique nationale. En cause, une expression de l'ambassadeur américain sur les réseaux sociaux qui menaçait un dirigeant de la gauche flamande critique contre Donald Trump et sa police de l'immigration d'interdiction de séjour aux États-Unis. Bill White n'a pas non plus hésiter à traiter l'actuel ministre belge de la Santé de corrompu, exhumant une affaire qui remonte aux années 90, ou à qualifier d'antisémite des poursuites engagées par la justice belge contre des actes de circoncision commis en dehors de tout cadre légal à Anvers. Contrairement à son collègue en poste à Paris, l'ambassadeur américain à Bruxelles a accepté de se rendre à la convocation du ministère belge des Affaires étrangères. C'était ce matin une audience lors de laquelle, selon le ministère, il a officiellement présenté ses excuses.
Les obsèques de Quentin Derenc ont été célébrées aujourd'hui dans l'intimité familiale à Lyon. Elles ont débuté par une messe en l'église Saint-Just sur la colline de Fourvière, dont les portes sont restées closes. Le militant classé à l'extrême droite est mort lynché il y a 12 jours dans la ville. 7 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire et complicité, parmi lesquelles plusieurs membres présumés de la Jeune Garde, le groupe antifasciste officiellement dissous. Aujourd'hui, le gouvernement redoute une possible reconstitution du mouvement. Et le débat s'est invité cet après-midi à l'Assemblée lors de la séance des questions au gouvernement. L'Assemblée où l'on retrouve Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Jeanne, le retour de la Jeune Garde a été évoqué ce matin à l'Élysée au cours d'une réunion sur la lutte contre les groupes violents.
Oui, une réunion à l'initiative du chef de l'État lui-même et durant laquelle il a effectivement été beaucoup question de la Jeune Garde. Parce que depuis les événements de Lyon, l'exécutif ne semble plus avoir beaucoup de doutes sur le fait que ce groupe antifasciste dissous l'année dernière ait pu se reconstituer. Le gouvernement a donc décidé de saisir la justice pour enquêter, je cite, sur ses émanations, précisant que les services de renseignement en ont pour l'heure identifié sur au moins 5 territoires, sans préciser lesquels. En parallèle, Emmanuel Macron demande au ministre de l'Intérieur de lancer dès à présent des procédures de dissolution contre ces structures. Sur les procédures déjà en cours, l'exécutif a aussi fait le point. 3 groupes d'ultra-droite sont actuellement visés, un autre d'ultra-gauche. Leur dissolution devrait intervenir dans les 2 mois. Le groupe Némésis n'est en revanche pour l'heure pas concerné. C'est pourtant ce que demande la France Insoumise depuis la publication d'une enquête du journal L'Humanité selon laquelle le collectif d'extrême droite aurait organisé avec des groupuscules néo-nazis, des guet-apens contre des militants antifascistes. Interrogé cet après-midi lors des questions au gouvernement, Laurent Nunez n'exclut pas l'hypothèse d'une dissolution.
Tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas.
Dans un communiqué publié cet après-midi, le collectif Némésis annonce déposer plainte contre le journal L'Humanité pour diffamation.
Merci Jeanne Serrin en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Un recours contre la dissolution de la Jeune Garde a par ailleurs été déposé et doit être examiné dans les jours qui viennent par le Conseil d'État. Direction le Sénat à présent, où a débuté cet après-midi l'examen de la réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Le texte vise à créer un État calédonien inscrit dans la République française. Il reprend en fait les accords de Bougival et de l'Élysée-Oudinot conclus en juillet et janvier dernier. S'il existe a priori une majorité au Sénat pour l'adopter, il n'en est pas de même à l'Assemblée. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
En ouverture des débats au Palais du Luxembourg, Sébastien Lecornu a dramatisé l'enjeu de cette réforme constitutionnelle.
Devant les sénateurs, le Premier ministre a d'abord détaillé le soutien financier que l'État français s'engage à apporter à l'archipel calédonien.
Le plan que propose le gouvernement cet après-midi engagera près de 330 millions d'euros sur 5 ans pour renforcer l'attractivité du territoire. C'est pourquoi nous financerons des ponts, des réfections de routes, des travaux d'adduction en eau potable. Le plan prévoit un dispositif exceptionnel de défiscalisation pour reconstruire les bâtiments détruits lors des émeutes de mai 2024. L'État soutiendra les finances calédoniennes qui ne pourront toutefois retrouver leur équilibre qu'avec l'engagement, vous le savez, de réformes structurelles.
Ce soutien financier, a dit Sébastien Lecornu, n'est pas conditionné par la mise en œuvre du projet de loi constitutionnelle soumis à l'examen parlementaire. Il ne s'agit pas de s'adonner au chantage. Mais il a toutefois vanté les mérites de l'accord de Bougival, signé au cours de l'été 2025, qu'il propose aujourd'hui au Parlement d'inscrire dans la Constitution française.
Il est tout simplement ce que nous avons fait émerger collectivement de mieux en 4 années de négociations. Car l'accord de Bougival a une vertu majeure. C'est la première fois depuis le 3e référendum qu'un accord entre Calédoniens émerge.
Seulement, cet accord est désormais rejeté par les indépendantistes du FLNKS qui y voient un frein vers l'indépendance. Et comme le FLNKS est contre, les parlementaires socialistes au Sénat comme à l'Assemblée ont indiqué qu'ils ne voteront pas le texte de loi du Premier ministre. Et ça pourrait tout bloquer car sans les socialistes, il n'y a pas de majorité qualifiée des 3/5 nécessaires pour engager une révision constitutionnelle. Sébastien Lecornu a donc tenté de leur adresser ce message.
Le statu quo n'est pas une option viable.
En vain, les socialistes ont émis une fin de non-recevoir, ce qui rend illusoire tout espoir de faire adopter à terme le projet de loi dont le parcours législatif a débuté au Sénat cet après-midi.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Sébastien Lecornu, qui était au Salon de l'agriculture ce matin, le Premier ministre venu échanger sur la loi d'urgence agricole en préparation, rebaptisé projet de loi de simplification des normes en agriculture. Le texte qui devrait être examiné en juin prévoit notamment de sécuriser l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Il contiendra aussi des mesures sur les pesticides. Et comme le Premier ministre se dit à l'écoute du monde agricole, le collectif Nourrir lui a soumis un contre-projet de loi pour intégrer, estime-t-il, les vraies difficultés du secteur. Un collectif qui réunit plusieurs syndicats ou ONG comme la Confédération Paysanne, Action contre la faim ou Foodwatch. Julie Maison-Haute en fait partie. Elle est déléguée générale de Commerce Équitable France.
Nous, on a fait aussi un projet de loi d'urgence qui vise à protéger le revenu des agriculteurs, protéger leurs facteurs de production en faisant en sorte que leur environnement reste sain et protéger les citoyens aussi dans leur capacité à accéder à une alimentation saine et durable dans laquelle ils puissent avoir confiance. On a 7 articles en tout, donc les 3 premiers articles concernent le revenu en précisant que le prix d'achat au producteur doit être complètement lié au coût de production, donc ne pas acheter en dessous de ses coûts de production, ce qui est aujourd'hui possible. Et puis on propose aussi que les grandes distributions soient mises face à leurs responsabilités en ayant un pourcentage minimum de référencement de produits bio et de commerce équitable pour qu'ils soient aussi disponibles pour tous les citoyens. Et sur la protection des facteurs de production, on s'est concentré sur la question de l'eau. L'idée, c'est de faire en sorte de garder la qualité de l'eau en développant assez fortement la production biologique sur toutes les aires de captage. La deuxième chose aussi, c'est préserver la terre comme facteur de production en assurant plus de transparence. Vous savez, aujourd'hui, les terres, quand il y a un départ à la retraite, vont essentiellement à l'agrandissement et c'est aussi un système qui est très peu transparent. Et la dernière partie, c'est faire en sorte que les citoyens, les citoyennes puissent avoir confiance dans leur alimentation. Aujourd'hui, on a des additifs alimentaires qui sont clairement pointés par des études fiables pour leur danger, pour la santé. On veut une suspension rapide de ces produits qui posent difficulté.
Julie Maison-Haute de l'ONG Commerce Équitable France, elle répondait à Catherine Pétillon. Parmi les priorités du moment du monde agricole, il y a les inondations qui recouvrent les champs dans l'ouest de la France. La décrue s'amorce, mais 2 départements restent en vigilance rouge pour les crues, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. La facture globale du passage de la tempête Nils pourrait approcher le milliard d'euros. Et si l'on intègre l'ensemble des crues de l'hiver, ce chiffre pourrait monter à 3 milliards d'euros. Car l'inondation est un sinistre qui coûte cher, entre 10 000 et 14 000 euros en moyenne, et la multiplication des catastrophes naturelles met en péril le système assurantiel français qui repose sur la contribution de tous, Valentin Grille.
Le système français est né sous François Mitterrand sur les fondements d'un modèle ni étatisé ni complètement privé. L'assurance habitation est obligatoire pour tous et chaque contrat contient une prime dédiée à l'indemnisation des sinistres liés à des catastrophes. Une prime qui finance la CCR, Caisse Centrale de Réassurance, organe public destiné à assurer les assureurs, à les protéger en dernier ressort des événements extrêmes. Ce régime dit CatNat est très robuste car il donne les moyens aux assureurs de couvrir 95% des sinistres contre 60% en moyenne en Europe. Mais il arrive aussi à bout de souffle. Un rapport rendu en 2024 au ministère de la Transition écologique souligne qu'il faudrait à la CCR 1,3 milliard d'euros de recettes supplémentaires par an pour équilibrer durablement le régime, et cela sans compter l'augmentation des dépenses liées au dérèglement climatique, avec 27% à 62% de sinistres en plus en 2050. Les solutions ne sont pas nombreuses. Augmenter la surprime CatNat dans chaque contrat d'assurance. Les prix des contrats pourraient ainsi grimper de 8 à 11% cette année, selon l'UFC Que Choisir. Autre piste, faire de la prévention dans l'aménagement urbain et la construction notamment, sans quoi les assureurs, eux, pourraient décider de rompre l'universalité du régime. Les primes peuvent déjà varier du simple au double selon les territoires. Et à l'avenir, certains pourraient ne plus être assurés du tout.
Explication signée Valentin Gris. Cette dernière information, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée. Le musée du Louvre, secoué notamment par un spectaculaire cambriolage survenu le 19 octobre, octobre, ayant besoin d'une nouvelle impulsion, indique ce soir l'Élysée. Le chef de l'État a accepté cette démission en saluant un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation. Fin de citation. Nous reviendrons sur cette démission de Laurence Descartes dans notre journal de 19h. Autre information dans l'actualité politique, Lucie Castet rejoint les listes du socialiste Emmanuel Grégoire pour les municipales à Paris, celle qui fut la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon. Après la dissolution, conduira la liste de la gauche hors LFI dans le 12e arrondissement de la capitale. Un mot du temps demain, outre les deux départements en vigilance rouge pour les crues, deux autres départements sont en vigilance orange pour les mêmes motifs, la Charente et la Loire-Atlantique, mais le soleil dominera dans l'ensemble, malgré des brouillards matinaux tenaces sur une large moitié nord. La douceur s'amplifie, les températures minimales iront de 5 à 11 degrés, et l'après-midi, il fera entre 13 et 24 degrés du nord-est au sud de l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck.